C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bienvenue à la quatrième émission des boulons. Bonjour à tous et bonjour Josiane.
Bonjour Luc. Bonjour Vanessa, Cédric, Pierre et Yannick, Fernande, Hugo et Michel, Elisabeth et Thomas.
Josiane, présentez-nous le sommaire de cette quatrième émission.
Dans un premier temps, Vanessa et Cédric vont nous présenter la chronique santé. Puis, ça sera au tour de Pierre et Janice de nous présenter des neuroleptiques.
Première pause musicale, orchestrée par Vanessa.
Fernande, Luisette, Jean-Baptiste vont nous parler de Philippe.
Deuxième pause musicale avec Hugo.
Une dernière chronique de sport avec Michel. Et enfin, la dernière chronique musique relaxante et douce avec Elisabeth.
Pause musicale expliquée par l'équipe des boulons.
Bonne émission à tous.
Comme prévu, voici la chronique santé présentée par
Vanessa et Cédric.
Bonjour, bonjour Luc, bonjour Josiane, bonjour Vanessa.
Bonjour Cédric, bonjour Luc et Josiane.
Alors Vanessa, à la dernière émission, tu as eu le courage de nous parler de toi, de ta pathologie. Et aujourd'hui, tu souhaites donner une suite en nous faisant part de ton témoignage sur ton hospitalisation.
Oui, en effet, je suis tombée malade en 2003, à l'âge de 20 ans. Sans savoir pourquoi ni comment. Je voulais faire des études pour devenir infirmière ou psychologue. Ma vie a basculé cette période-là. Je suis restée hospitalisée pendant une longue période, environ 10 mois.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette hospitalisation ?
Alors, mon hospitalisation a été assez longue et difficile. Il faut savoir que les médecins ne savent pas quelles molécules feront effet. Chaque cas est unique et il faut parfois essayer plusieurs traitements avant de trouver le bon. Pour mon cas, je peux dire aujourd'hui que je suis guérie. Je suis toujours sous traitement appelé neuroleptique. Grâce à lui-ci, je n'ai plus de délire auditif. J'ai retrouvé à peu près une vie normale.
Alors, cette première hospitalisation, quand tu es arrivée en fait dans le service la première fois, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ?
Oui, donc j'ai été hospitalisée en HDT à la demande de ma mère en 2003.
Oui, donc en fait, tu as été hospitalisée, comme tu dis, en HDT, donc c'est hospitalisation à la demande d'un tiers.
Oui.
Bon, il faut savoir que ça a été modifié le 5 juillet 2011. Il y a eu une réforme au niveau des modes d'hospitalisation. Aujourd'hui, on parle de SDT, soins à la demande d'un tiers. Donc il faut savoir qu'il y a trois grands modes d'hospitalisation. L'hospitalisation libre, où là, l'usager demande, il est consentant.
De lui-même.
Voilà, de lui-même, en effet. Ensuite, il y a l'hospitalisation, donc les soins à la demande d'un tiers, le SDT. Donc là, ça nécessite une tierce personne qui demande l'hospitalisation, mais c'est forcément validé par par des certificats médicaux. Il y en a deux.
Souvent, donc, c'est les personnes de la famille qui font la demande.
Oui, en effet. Généralement, ce sont les personnes de la famille. Ça peut être des amis très proches. C'est vraiment fait dans l'intérêt de l'usager, du patient, puisque bien souvent, le patient n'a pas forcément notion qu'il va mal et c'est pour le protéger. Donc après, il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle la SDT d'urgence, où là, il suffit d'un certificat quand il y a un risque grave d'atteinte de l'intégrité du malade. D'accord. Et après, il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle le péril imminent. Donc le péril imminent, c'est quand il n'y a pas de tierce personne demandeuse. Donc là, c'est un certificat, mais d'un médecin extérieur au bâtiment.
Un médecin traitant ?
Voilà, par exemple, ça peut être le médecin traitant, en effet, qui consulte, qui reçoit le patient et fait le constat que le patient ne va pas bien. S'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas de tierce, s'il n'y a pas de personne qui peut être tierce personne, voilà, ça permet quand même de prendre soin de l'usager. Et après, on a ce qu'on appelle le dernier, c'est le soin sur décision du représentant de l'État. C'est ce qu'on appelait avant l'hospitalisation d'office. Hein, c'était les dénominations à l'époque où toi, tu avais été hospitalisé.
Oui. Hein. Donc, bah, il y a déjà quand même plus de 7 ans.
Oui. Donc, c'est comme ça a changé en 2011. Il y avait même eu une modification en 2013, hein, le 27 septembre. Donc, c'est un arrêté du préfet au vu d'un certificat. Voilà ces petites précisions.
Alors, donc, je me souviens le premier jour où j'ai été hospitalisée. Je ne connaissais pas du tout cet endroit. Je ne savais pas que ça existait déjà. Donc, j'étais perdue et désespérée, ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Donc je suis arrivée dans la soirée en psychiatrie. Déjà les premiers symptômes de la maladie, c'est les insomnies perpétuelles, ouais. Le cerveau qui se repose pas, toujours en train de penser, d'imaginer, donc ouais. On n'arrive pas à dormir. Ouais. Donc on est vraiment, on perd tout contact de la réalité. On peut dire que c'est une décompensation.
Décompensation psychotique,
ouais, ou en effet. Psychologique. Ouais.
Et ça a duré combien de temps, cet état de souffrance?
Alors, je suis restée un peu plus de 8 mois.
Oui.
Donc, en essayant de trouver un traitement efficace.
Oui.
Donc, mon psychiatre, hein, M. Oukil, hein, du CMP Nord, rue Edmond-Etoin.
CMP Sud.
CMP Sud, ah, excuse-moi. a trouvé la molécule, hein, a trouvé le médicament qu'il me fallait pour me délivrer de ce cauchemar, on va dire. Ouais. Parce que sachant que cette maladie-là, elle est très difficile à vivre. Ouais. Donc j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire que je n'ai plus de symptômes, que je n'entends plus de voix, que c'était assez fatigant quand même de le vivre. Donc,
c'était compliqué à ce moment-là. Et aujourd'hui, en effet, voilà. Avec ce traitement, le sérieux aussi, hein, ton oui. sérieux derrière tout ça, puisque tu prends régulièrement ce traitement, ça te permet d'aller
nettement
mieux.
Ah oui, oui. Bah, sachant que j'avais... je me disais, oui, je suis pas malade, je vais arrêter les traitements. On n'y croit pas. Donc, plusieurs fois, j'ai arrêté mon traitement en pensant ne pas être malade. Et à chaque fois, ça va peut-être prendre un an sans traitement, pendant un an ça va aller, mais au bout d'un moment ça revient. Ouais. Donc j'ai bien compris que les médicaments faisaient partie de ma vie aujourd'hui et que grâce à cela je vais mieux aujourd'hui.
Ouais. Yannick, tu as une question?
Je crois que, enfin moi ça fait longtemps que je connais Vanessa et je pense que aujourd'hui si elle est là, c'est parce que effectivement elle a accepté la maladie. Oui. Elle a accepté ouais. de vivre avec un traitement. Elle oui. a accepté aussi tout ce qui s'est mis en place autour d'elle, c'est-à-dire le cheminement, les infirmiers de secteur qui ont été fort présents pour elle. Et elle a été vraiment dans la compliance avec l'équipe, avec tout ce qui gravitait autour d'elle et qu'elle a compris qu'on était là pour elle. Et aujourd'hui, elle nous le rend parce qu'elle dit. C'est ouais, exceptionnel.
Tout à fait. Alors justement, Yannick, tu rebondis sur les soignants. Donc Vanessa, les soignants dans tout ça, alors quelle place?
Une place importante... ils veillent à notre confort, nous rassurent, savent trouver les mots à nos mots. Je tiens à remercier d'ailleurs Cédric, merci. Sylvie, Evelyne, Bruno, Bérangère et tous ceux que j'ai connus, Marie-Paul, Pascal, Caroline. Un de mes meilleurs souvenirs, on va dire, sont les moments où je changeais l'eau de l'aquarium à une méthode thérapeutique avec toi, Cédric.
Oui, ouais. Ça permettait une concentration.
Voilà, ah. de s'occuper de quelque chose de très fragile, hein, les poissons. Ouais. Ouais. Enfin voilà, c'était une bonne activité. Donc de mon hospitalisation, hein, c'est le sujet aujourd'hui, je suis restée donc à peu près 10 mois. J'en garde de bons souvenirs, à part un mauvais qui est un peu traumatisant à vivre, mais qui fait partie des soins. Donc c'est la méthode de l'isolement. Est-ce que tu peux nous expliquer?
La chambre d'isolement.
Oui.
Oui, en effet. C'est vrai que le fait d'isoler les personnes, c'est pas fait de manière anodine. C'est réfléchi. Donc les gens sont en effet isolés dans une pièce. Mais c'est pour les contenir, bien souvent, pour les protéger.
De même. Et des autres.
Aussi, et voilà, protéger de ce qui pourrait arriver. C'est fait dans l'intérêt du patient. Il faut savoir que c'est toujours encadré. Il y a des documents. Il y a c'est une prescription médicale. Hein. Il y a tout un suivi. C'est surveillé. Il y a une vidéo. Il y a un interphone. Je veux dire, tout est très 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 surveillé.
Voilà, c'est une méthode de soin.
Bah, ça fait partie d'à un moment donné. Il y a ce besoin. Il y a ce besoin pour permettre aux patients d'être contenu, j'ai envie de dire, hein, d'être contenu.
D'accord.
Voilà.
Donc, dans une prochaine émission, j'aimerais parler du rôle des ergothérapeutes.
Oui, on en a un petit peu discuté. En effet, hein, je vois que tu as beaucoup de choses à nous dire sur ton vécu, hein, sur cette hospitalisation.
Et malgré la situation, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de témoigner de mon histoire. Donc voilà, je suis très fière de participer à cette émission.
Ah ben c'est clair, et moi je suis très fier de faire cette chronique avec toi, parce qu'en effet, d'entendre ce genre de témoignage, nous en tant que soignants, je crois que Luc, Yannick, je crois que forcément on peut être que touché de ce...
Honoré, touché
de ce genre de ce témoignage, de ce que tu nous apportes là, et ça nous montre que notre boulot, ben, quelque part, il apporte quand même quelque chose. Hein. Hein, donc, en effet, je te propose à la prochaine émission de continuer cette chronique santé, et on pourra aborder le travail des ergos, le travail du moniteur d'atelier, Guy.
Voilà, des ateliers.
Le travail aussi des ASH, hein, des cuisines aussi,
la
cafétéria.
Cantine,
voilà, il y a toute une vie dans le bâtiment, et chacun a sa place et chacun permet à l'autre d'avancer.
Hein. Donc, je me remets à la méditation et à la composition de quelques poèmes aussi la prochaine fois.
Eh ben, il faudra nous en proposer un, avec
D'accord.
plaisir. Hein. Bah, écoute, voilà. Merci beaucoup.
Bah, merci.
Merci Vanessa.
Merci Vanessa et Cédric pour ce touchant témoignage. Tout de suite, Yannick et Pierrick vont nous parler des neuroleptiques. Merci.
Bonjour.
Bonjour Luc et Josiane. Bonjour Yannick.
Bonjour Pierrick.
Je vais vous présenter les neuroleptiques aujourd'hui.
Yannick.
Donc les premiers médicaments neuroleptiques ont été utilisés en psychiatrie dans les années 1950. Ils ont changé radicalement le traitement des troubles psychotiques, en soulageant notamment des angoisses profondes, des perturbations du fonctionnement psychique qui leur sont liées, et des états d'agitation. Depuis les années 1950, différents groupes de neuroleptiques ont été commercialisés. L'évaluation des médicaments évolue en permanence, et aujourd'hui on connaît mieux les bénéfices attendus, les risques d'effets indésirables de ces médicaments, ainsi que les limites de leur utilisation. Qu'il s'agisse de traitements brefs ou pour les états de crise ou de traitements plus prolongés, tenir compte de l'ensemble de ces informations permet d'adapter le traitement à la situation de chaque patient. Les buts des neuroleptiques intégrés dans une prise en charge globale sont de diminuer la souffrance de personnes atteintes et de leurs proches, d'améliorer leur fonctionnement psychique du point de vue affectif, relationnel et social, et de diminuer le risque de suicidaire. Ces médicaments n'ont pas d'effet curatif. Autrement dit, les neuroleptiques ne guérissent pas, mais soulagent. Les neuroleptiques ont aussi des effets autres que psychiques, ce qui explique certains effets indésirables et certaines utilisations. Alors maintenant, je vais répondre aux questions que va me poser Yannick.
Alors, c'est quoi l'indication première des neuroleptiques, Pierrick ?
Comment ?
L'indication ?
En fait, il y a plusieurs... Il y a plusieurs indications aux neuroleptiques. Il y a les délires, les dépressions, les troubles bipolaires, les manies d'état maniaque, la paranoïa et la schizophrénie.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez utilisé ces médicaments ?
Oui, j'ai utilisé des neuroleptiques. J'utilise actuellement, j'ai utilisé plusieurs traitements. Là, j'ai un traitement d'ancienne génération qui s'appelle l'haloperidol, 2 ampoules par mois.
Alors,
c'est une injection.
Est-ce qu'on peut considérer que, comme a dit tout à l'heure, on va rejoindre un peu ce qu'a dit Vanessa, c'est-à-dire qu'il a fallu un certain temps avant qu'on trouve la bonne molécule qui lui convienne le mieux. Est-ce que vous confirmez ça ?
Oui, je confirme, parce que maintenant que je prends de l'haloperidol, tout fonctionne plutôt bien, quoi. J'ai pas trop de problèmes particuliers, à part un peu d'akathisie. Donc l'akathisie, c'est des troubles physiques, genre des tremblements, des choses comme ça, quoi,
D'accord. Et autre, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres effets indésirables de ces traitements, puisque...
Ben, les effets les plus souvent retrouvés, c'est le grossissement.
La prise
les gens grossissent beaucoup avec les neuroleptiques. mais il y a plusieurs, il y en a d'autres. Il y a d'autres effets indésirables qui sont la sédation excessive, oui. Provoquer une passivité ou une fatigue, perte d'émotion, refus des contacts, des intérêts généraux, diminution des expressions du visage. C'est l'indifférence psychomotrice. Troubles neuroleptiques, des contractions musculaires.
Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur l'effet sédatif? Pourquoi ce neuroleptique, on va le donner à quelqu'un qui décompense? À quoi sert cet effet de sédation, pardon?
Cet effet, je pense qu'il est là pour que la personne soit plus calme, quoi, plus apaisée.
Je vais rebondir sur ce qu'a dit Vanessa tout à l'heure. Elle a dit que son cerveau il travaillait tout le temps, ce qui l'empêchait de dormir. Et est-ce qu'on peut dire que l'effet sédatif va lui permettre, à un moment donné, d'endormir ce
sommeil,
cerveau?
Oui, je pense, oui.
D'accord. Autre conséquence de ce traitement dont vous pouvez nous parler?
Il y a aussi le syndrome extrapyramidal ou parkinsonien, troubles qui font penser à la maladie de Parkinson.
Tout à fait.
Les neuroleptiques peuvent aussi provoquer une akathisie, c'est ce que je parlais de tout à l'heure. Oui.
Donc c'est les gens qui bougent tout le temps, c'est pas ça, ouais. Ils tournent dans le service en permanence, c'est ça?
Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
D'accord. Alors moi je vais revenir un petit peu sur la prise de poids, on peut? Effectivement, ouais. Je l'ai constaté sur certaines prescriptions. Alors il y a des patients qui prennent du poids, il y a d'autres qui n'en prennent pas. Je crois que dans la vie, chaque traitement, il est propre au patient et le patient réagit différemment. On l'a tous, on le vit tous. Il y a des effets secondaires, des fois on en a, des fois on n'en a pas. Ça c'est un petit peu... c'est vrai que c'est un stéréotype, mais moi je connais des patients qui ont des traitements neuroleptiques très lourds et qui n'ont pas pris un gramme. Donc je crois que c'est un petit peu chacun... son corps réagit d'une façon ou d'autre, et ça c'est
avec
vrai pour tout.
Avec le psychiatre, trouver son neuroleptique, quoi, c'est
tout à fait
important, quoi.
Et il y a quand même quelque chose de très important. Alors il y a l'alliance, il y a la découverte des neuroleptiques qui a quand même été une avancée, et il y a aussi ce qu'on a, on rejoint sur ce qu'a dit Vanessa tout à l'heure, c'est l'observance du traitement, c'est aussi une des clés de la stabilisation. Donc il y a le traitement qui vous convient, où vous vous sentez le mieux. Mais il y a aussi cette observance, c'est-à-dire que vous pouvez trouver un traitement qui va bien à la personne, mais si la personne, au bout d'un mois, l'arrête, on revient à zéro. Donc il y a toujours ce travail, il y a deux choses, il y a le neuroleptique qui est prescrit et comment le patient répond à ce médicament.
Le patient doit autant s'impliquer que...
Voilà, mais le patient, il est vraiment la clé de la réussite, c'est lui.
Il doit comprendre qu'il est malade et qu'il doit soigner, quoi.
Il doit accepter le fait que ce traitement lui permette d'aller bien. C'est ce qu'a dit Vanessa tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où elle a accepté ça, elle a cheminé et elle a fait un super parcours. Mais elle n'est pas la seule, il y en a plein dans cette salle qui ont cheminé en faisant ce parcours-là. Vas-y Vanessa.
Je dirais on est responsable de soi-même.
Tout à fait.
Ouais, c'est sûr, oui.
Et c'est ce que vous faites, je pense, Pierre, puisque vous avez dit, à juste titre, que vous en avez essayé plusieurs.
Oui, j'ai essayé plusieurs traitements. J'ai essayé des traitements d'ancienne et de nouvelle génération. Là, j'ai un traitement d'ancienne génération qui est l'allopéridol.
L'allopéridol.
Excusez-moi. Et les traitements de nouvelle génération m'ont pas convenu tout à fait. Donc, c'est un traitement d'ancienne génération qui me convient plus.
Qui vous convient plus, tout à fait. Vanessa, bien sûr.
J'aimerais dire, la pharmacie maintenant me propose du générique pour mon traitement. Et psychologiquement, je ne fais pas confiance au générique.
D'accord.
Donc je stipule tous les mois sur l'ordonnance que mon médecin prescrit avec la notion...
non substituable, c'est votre médecin qui l'écrit,
voilà.
Tout à fait.
Pour ne pas avoir les génériques.
Ça s'entend, mais ça s'entend. Ça fait partie aussi du travail, c'est bien. En tout cas, Pierrick, je vous remercie pour cette chronique qui était très intéressante sur les neuroleptiques.
Merci, Yannick.
Et maintenant,
merci,
on rend la parole aux animateurs.
Merci à vous deux. Première pause musicale, excusez-moi, proposée par...
Vanessa.
Alors oui, c'est un homme qui est prêt à tout pour une femme qui l'a rencontrée. Donc c'est Félix Gray, c'est la gitane. Je le dédicace à Fifi.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Maintenant, Fernande, Louisette, Jean-Baptiste et toute l'équipe des Boulons vont vous parler
de l'association de Willy.
Bonjour Louisette.
Bonjour.
Pouvez-vous d'abord nous présenter votre association ?
Alors, l'association Willib est une association qui va aider et accompagner les personnes malades de l'alcool. C'est également accompagner les familles. Donc, nous allons les écouter, les orienter, les encourager à devenir un jour abstinent.
D'accord. Vous, au sein de cette association, quel est votre rôle ?
Alors moi, je suis salariée de l'association, c'est-à-dire que je m'occupe aussi bien de l'accompagnement de ces personnes, mais également de tout ce qui va être autour de la prévention.
D'accord. Je me tourne maintenant vers Jean-Baptiste. Mmh. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes adhérent donc de cette association.
Oui.
Pouvez-vous nous faire partager votre expérience ?
C'est-à-dire que moi, je suis venu à Willib parce que j'étais malade de l'alcool.
D'accord.
Donc, je me suis fait soigner. Et ensuite, j'ai été accompagné par par ma famille, par les gars de Vilib, et j'ai réussi à tenir le coup.
D'accord. Vous vous êtes fait soigner, pas à Vilib d'abord?
Non, j'ai fait une cure à l'hôpital.
D'accord.
Mais j'ai vite rechuté.
Ok.
Et ensuite, j'ai été un mois en psy, car je pensais au suicide. Et c'est là que ça s'est déclenché, quoi. Le médecin, le docteur Passon, m'a donné une permission pour aller à un spectacle de Vilib. Et deux jours après, je sortais.
D'accord. Et là, vous avez rencontré donc l'association.
Oui, j'ai rencontré les salariés de Vilib, les bénévoles, qui m'ont bien aidé.
Quel type de programme est mis en place pour les adhérents de Vilib? Quel genre d'activité
Les activités, tous les samedis, on fait un après-midi que c'est tenu par les bénévoles. Il n'y a pas de salariés. Alors, on peut jouer à cartes ou discuter, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Et de temps en temps, il y a des lotokines, des après-midi récréatifs.
Alors, excusez-moi, depuis combien de temps êtes-vous inscrit à Vilib?
À Vilib, j'y suis vraiment depuis le 21 octobre 2012.
2012.
Oui.
Et ça fait combien de temps que vous avez eu votre carte rose, celle qui signifie que vous avez vraiment réussi l'arrêt de l'alcool?
J'ai eu ma carte rose en décembre 2013.
D'accord. Et depuis, vous n'avez plus bu un verre de...
Non, non.
Même en mangeant un petit verre de vin?
Non, même un chocolat et liqueur.
Non, rien du tout.
Rien.
D'accord.
Combien y a-t-il d'adhérents dans votre association?
Alors, nous comptons à peu près 180 adhérents. Alors, pour moitié, effectivement, ce sont des personnes comme Jean-Baptiste qui sont abstinentes d'alcool. Pour l'autre moitié, ce sont des personnes qui simplement veulent aider, soutenir financièrement notre association.
Donc, si quelqu'un veut participer aux activités de vie libre, où est-ce que, comment peut-on vous trouver?
Alors, nous sommes situés, nous avons un local qui est situé 1 Place Navarin, ici sur Boulogne. Donc, nous sommes ouverts tous les jours, hein, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, sauf le mercredi où nous sommes fermés au public. Et nous avons également une permanence de bénévoles, donc le samedi après-midi de 14h à 18h.
Et si, est-ce que vous êtes en partenariat avec des addictologues?
Alors, nous travaillons effectivement en collaboration avec le XAPA, le centre de prévention des addictions, hein, au niveau de l'hôpital. Et effectivement, nous accueillons, nous, dans un premier temps, avant les soins, les personnes désireuses de l'alcool qui désirent effectivement se soigner. Et ensuite, nous les orientons, nous les accompagnons effectivement dans le service d'addictologie.
D'accord. Donc, autour de la table, il y a Fernande. Coucou Fernande.
Bonjour.
Est-ce que tu veux témoigner un petit peu de ta réussite, de ton combat que tu as mené? Et aujourd'hui, tu as réussi, est-ce que tu...
Eh ben c'est grâce à Vélib que je suis sortie de l'alcool.
Il y a combien de temps, du
coup? Ça fait 3 ans que je bois plus.
D'accord, c'est bien.
Et j'ai la couture tous les lundis. Tous les samedis après-midi, je vais passer un moment après-midi.
Pour toi, c'est important d'aller à Vélib?
Oui, puis c'est... je suis bien entourée.
Il y a une bonne équipe.
Une bonne équipe, avec Louisette, Jean-Baptiste...
Justement, Louisette, quelles sont les activités proposées?
Alors, effectivement, comme le disait Fernande, nous avons un après-midi un atelier créativité le lundi après-midi. Donc, toutes les personnes qui sont très manuelles peuvent venir, effectivement, pour proposer aux autres de faire découvrir des activités manuelles. Ensuite, nous avons effectivement le samedi après-midi où les bénévoles se réunissent pour discuter, prendre un café ou avoir des jeux de société, des jeux de cartes. Et ensuite, nous avons différentes activités loisirs qui vont être organisées pendant les week-ends. Alors, ça peut être un repas, comme disait tout à l'heure Jean-Baptiste, hein, la première fois il est venu. Ça peut être aussi un lotokin, des après-midi récréatifs, pardon, à thème, comme effectivement la galette des rois ou à des occasions particulières.
D'accord, c'est bien étoffé, je vois ça.
Oui.
Josiane, une petite question?
Oui. Quelles sont les personnes qui peuvent aller à Vilib?
Alors, toute personne, effectivement, qui rencontre des problèmes avec l'alcool.
Mmh.
Alors, que ce soit la personne par elle-même ou bien l'entourage, un voisin, un ami, peu importe la personne. Venir, effectivement, chercher une solution.
Merci.
Quelle est la méthode que vous avez pour, psychologiquement, pour dire à quelqu'un d'arrêter de boire? C'est quoi la motivation?
Alors, je pense que la motivation, il faut aller la chercher au fond de la personne. Hein. Ce n'est pas nous qui allons la trouver. Nous, on aide simplement la personne à en prendre conscience.
Est-ce qu'il y a un suivi psychologique dans votre association ?
Alors, on n'a pas effectivement de médecin, hein, proprement dit, dans l'association. C'est pour ça qu'on se tourne effectivement autour du XAPA, où on va trouver effectivement
d'accord,
tout ce qui va être...
D'accord, il y a un suivi en parallèle.
Tout à fait, qui est très important.
Vie Libre, c'est une équipe pédagogique. Vous êtes nombreux ?
Alors non, nous sommes deux salariés, donc la personne effectivement qui est au secrétariat à l'accueil au niveau de l'association et moi-même qui effectivement va faire de l'accompagnement et plutôt de la prévention.
Donc pour 180 adhérents, c'est quand même une petite équipe. C'est
oui, tout
de
à fait. On a effectivement,
choses, hein.
On peut compter effectivement sur nos bénévoles, hein, effectivement comme Jean-Baptiste, Fernande, qui sont en capacité à leur tour effectivement aujourd'hui d'accompagner des personnes qui désirent des renseignements.
Ils deviennent à leur tour des animateurs.
Tout à fait. Et c'est aussi l'objectif premier de Vie Libre. C'est que ces personnes qui ont connu la souffrance à un moment donné ben, deviennent effectivement à leur tour des personnes accompagnantes.
Ben, c'est comme nous aujourd'hui. Hein. Nous, on a créé l'émission. On est un peu dans ce système-là. On a la même identité, entre guillemets. Dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fatalité. Quand on veut s'en sortir, on s'en sort. Et à mon avis, que ce soit l'alcool, la drogue ou le tabac, c'est vraiment une décision personnelle et un combat personnel aussi. Donc, merci Fernand de témoigner aujourd'hui de ton parcours. Merci Jean-Baptiste aussi. Une dernière question, Hugo ?
Est-ce qu'on peut dire qu'il vient d'avoir la Saint-Sylvestre il n'y a pas très longtemps ? Est-ce qu'il y a des périodes où il y a des pics de fréquentation au niveau de Vie Libre ?
Alors on ne peut pas dire que c'est des périodes où effectivement il y aura plus de monde. Hein. Je pense qu'en période de fête, on n'y pense pas. Si on avait une décision effectivement pour se soigner, ce n'est pas forcément la bonne période pour se soigner. On sait très bien que dans des moments de convivialité comme cela, on est plutôt censé boire de l'alcool. Hein. Dans notre culture, effectivement, on va en boire. Et c'est très difficile en cette période, justement, pour les personnes qui sont abstinentes.
Oui. Donc, il n'y a toujours pas de ligne, par exemple, une ligne téléphonique où on peut joindre des bénévoles qui feront un suivi...
Alors on a
instantané. Ouais.
Du fait que nous avons un bureau, effectivement, nous avons un numéro de téléphone, hein, donc je peux le donner, le 03 21 31 89 28. Donc effectivement, il y aura une personne qui va vous répondre. Par contre, effectivement, tout à chacun, tout bénévole peut éventuellement donner son numéro personnel pour aider ou accompagner quelqu'un.
Louisette, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre fonction, vous, au sein de cette association ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez dans des collectivités ? Dites-nous un peu.
Alors moi, je vais faire effectivement tout ce qui va concerner l'accompagnement, alors que ce soit au niveau de notre local, ou à un place Navarra, ou au domicile. C'est également de faire des visites à l'hôpital. C'est également des actions auprès du tribunal, hein, ici sur Boulogne. Mais c'est également effectivement de faire de la prévention. Donc moi, je vais effectivement dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités, les centres de formation. Effectivement, l'important, c'est de prévenir et de faire en sorte que les personnes, effectivement, sachent gérer leur consommation d'alcool.
D'accord. Vous êtes embauché, vous êtes salarié, mais...
Je suis salarié, oui.
Par qui, en fait ?
Alors, je suis salarié par l'association, mais nous avons effectivement des subventions. Hein, et en particulier, au niveau de mon poste, c'est de la communauté d'agglomération du Boulonnais et également de la région des Hauts-de-France.
D'accord. Et vous êtes au sein de cette association depuis combien de temps ?
22 ans maintenant.
D'accord, ok. Est-ce qu'on peut rappeler vite fait le lieu et les horaires d'ouverture ?
Alors, vous pouvez effectivement venir nous rencontrer donc du lundi effectivement au samedi, donc au 1 Place Navarra, de 9h30 à 12h, de 14h à 17h30, fermé au public le mercredi et une permanence le samedi de 14h à 18h.
Fernande ?
Oui ?
Quand allez-vous, vous, exactement à cette association ?
Bah, j'y vais tous les lundis après-midi.
D'accord.
De 2h jusqu'à 5h.
D'accord. Ok. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes parrain d'autres de personnes qui justement ont des soucis d'alcool ?
Parrain, non, on ne peut pas dire ça. Mais je vais voir des malades chez eux quand ils appellent, quand ils ont besoin.
D'accord. Vous n'avez pas de personnes attitrées
Non, parce que les malades, au moins, une fois, ils vont vous parler à vous, puis après ils vont parler à une autre personne. C'est... Mmh.
D'accord.
On a pas chacun son malade.
C'est en fonction de, d'affinité.
Oui.
D'accord. Eh bien, je vous remercie.
Oui, Vanessa, je voulais dire, sans alcool, la fête est plus folle.
Moi, je voudrais saluer
J'espère.
Ces gens qui leur apportaient tout mes pensées pour leur courage. Mmh. Parce que c'est vrai que nous, avec notre maladie psychique, souvent, on est face à l'isolement, la désocialisation. Et donc, c'est vraiment une...
un bon combat
pour la société.
Josiane, je vous en prie.
Je tiens à féliciter Jean-Baptiste et Louisette, et surtout ma petite Fernande, et je te dis bonne continuation.
Merci Josiane.
Merci à vous.
Merci. Merci à vous tous.
Merci.
De retour dans l'émission des Boulons.
Pour la pause musicale présentée par Hugo.
Oui, merci Fernande. Donc, petite pause musicale, je vais vous présenter un morceau d'électro, de musique électronique, un groupe français, c'est Justice. C'est leur dernier album, il est sorti il y a un mois environ. Le titre que nous allons écouter, c'est Pleasure. Je vous souhaite de bien kiffer.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Sans plus attendre, nous retrouvons
Michel pour la chronique sport.
C'est à vous, Michel.
Bonjour. Voilà, je voulais me donner des conseils pour les personnes qui prennent de bonnes résolutions en début d'année. Le fait d'aller courir, c'est une bonne résolution, donc c'était pour vous donner des petits conseils. Bon, si vous êtes débutant ou vous n'avez pas fait de sport depuis quelques années, il est quand même préférable d'aller voir son médecin traitant qui peut vous prescrire une ordonnance pour voir un cardiologue, pour faire un test d'effort, pour voir si vous avez la bonne condition physique pour faire ce genre de sport.
D'accord. C'est vrai qu'on est en fin d'année, on a fait quelques excès. On va dire que je vais prendre mon expérience, j'ai envie de me mettre au sport. Qu'est-ce que je peux faire ?
Bah déjà, si vous avez déjà un point positif auprès du cardiologue, c'est d'acheter un équipement, mais pas forcément un équipement de professionnel. Il y a une grande surface qui vend des équipements de sport, pour ne pas la nommer.
Non.
On fera choisir surtout de bonnes chaussures quand même, mais chaussures pour débutants et un équipement. Par les temps qui courent, il fait assez froid quand même. Prendre un équipement pour courir dehors quand même, c'est quand même préférable d'avoir ne pas avoir froid. Donc c'est pas non plus la peine de mettre un prix exorbitant.
Ah, tout à fait, je crois qu'il y a des équipements qui sont pas chers.
Oui, c'est
qui vont
ça,
bien.
Oui,
hein,
oui.
Faut pas oublier le bonnet, hein, Michel, parce qu'il fait super froid. Hein,
oui, c'est liane. Sûr, c'est sûr. Donc, vous avez l'équipement. Donc, moi, je préconise la première sortie, c'est de faire 30 minutes. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai débuté. 30 minutes et alterner marche et cours, c'est-à-dire faire 5 minutes courir et 5 minutes marcher. Jusqu'à 30 minutes. Et puis, les autres sorties, si vous vous sentez vraiment bien, c'est d'augmenter la durée de course et diminuer la durée de marche. Je crois que c'est un bon compromis pour débuter.
Et quel terrain vous conseillez pour courir?
Oui,
parce qu'il y a des terrains qui sont plus durs que d'autres.
Oui, pour débuter, je pense qu'il faut quand même prévoir un endroit agréable, un site agréable et pas de grand dénivelé. Bon, il y a maintenant les rives de la Liane, c'est un très très beau site pour courir. Donc c'est bien plat. Donc vous avez des repères. Et je préconise aussi les sentiers de la forêt d'Écho. C'est bien balisé et puis c'est quand même moins traumatisant pour les articulations que le macadam.
Ah, c'est vrai, je confirme. C'est moins traumatisant.
Ouais.
Sauf que la forêt d'Écho, il faut connaître, hein, parce qu'on
faut
peut se perdre.
Un peu quand même.
On peut se perdre.
Il faut
pas y aller tout seul.
Oui, il faut pas y aller tout seul. C'est sûr que si vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec vous qui débute aussi, c'est l'idéal. Parce que c'est vrai que poursuivre un effort comme ça tout seul, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui seraient enclins à abandonner à la première sortie. Mais surtout, c'est de quand vous courez, d'avoir un rythme régulier, pas saccadé, essayer d'avoir toujours la même allure et ne pas se faire mal, puisque si on se fait mal, on s'écœure et c'est ce qui ferait qu'on aurait tendance à s'arrêter, à faire qu'une sortie et puis laisser tout tomber après.
Et est-ce que vous conseillez, par exemple, de prendre ses pulsations avant et après et calculer le temps de récupération? Est-ce que ça a une importance quand on démarre?
Ah oui, c'est très important. C'est sûr qu'il faut surveiller ça avec beaucoup d'intérêt.
J'ai une petite question. Au niveau hydratation, comment on fait, Michel?
Oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler, mais il faut surtout bien s'hydrater. De toute façon, il est conseillé de boire un litre et demi d'eau par jour, mais quand vous courez, il faut surtout bien s'être hydraté avant de partir. Ça, c'est très très important. Et avoir mangé, faut pas aller courir à jeun. Ça, c'est sûrement déconseillé. Et donc, il faut avoir mangé à peu près 2 à 3 heures avant. Et peut-être prendre une barre énergétique si vous voulez être sûr de ne pas avoir de problème.
Mais vous êtes un grand athlète, hein, il me semble, hein, je crois. Hein. Donc tout ça, on peut démarrer, puisque là, on a vraiment festoyé à Nouvel An, on a fait un carton, donc il va falloir qu'on élimine, c'est clair. Oui. Et vous pensez combien de fois par semaine on peut le faire quand on démarre?
À mon avis, on peut faire ça au moins 3 fois par semaine, mais. Mais c'est toujours très important d'aller à un rythme très régulier au début et surtout ne pas courir par à-coup puisque c'est là qu'on pourrait se faire mal et avoir des problèmes.
Bon, alors l'équipe des Boulons a besoin d'un coach. On commence quand, Michel?
Oh ben oui, on pourra commencer en début d'année là.
Au mois de février là, il va faire bien froid, on va être bien.
Ouais, d'accord.
Bon, ah ben c'est parfait. Un grand merci à vous, Michel, pour tous ces conseils. Sans plus attendre, nous retrouvons Elisabeth.
De nous parler de musique douce et relaxante.
À vous, Elisabeth.
Merci Josiane et Luc. Effectivement, je souhaite aujourd'hui vous faire partager mon expérience de la musique relaxante et douce. Vous ressentez le besoin de trouver un bien-être ou de vous redécouvrir? Alors, testez la musique relaxante ou douce. Cela peut apporter sérénité, calmer son esprit, permettre de cultiver son lâcher-prise, d'aider à calmer son anxiété, de vivre la magie de l'instant présent et même aider à s'endormir. Elle procure des bienfaits sur le corps, mais aussi permet le bon fonctionnement cérébral. La méditation est bonne pour tous, grands et petits, jeunes et moins jeunes, pour peu qu'elle soit pratiquée régulièrement. Les sons paisibles permettent de calmer son esprit, aide à retrouver son équilibre et de la tranquillité. Les sons environnementaux offrent, eux, des moments de méditation exceptionnels. Ils peuvent être un moyen idéal de connaissance de soi, de dépassement et d'épanouissement. Personnellement, je m'efforce de pratiquer régulièrement, presque quotidiennement dès que je le peux. En séance, allongée sur mon canapé, ou en musique de fond tout en vaquant à mes occupations. Et même le soir avant de m'endormir. Ces sons m'aident à lâcher prise et mieux gérer les énergies qui arrivent, de retrouver un bien-être certain, un apaisement. Il m'est même arrivé plusieurs fois, alors que j'étais allongée, en écoutant ces musiques, d'avoir l'impression de flotter sur l'eau, de lâcher prise totalement avec mon corps. On a même trouvé trace des bienfaits des notes de musique sur un traité chinois datant de plus de 5000 ans. Comment se procurer ces musiques? Très facilement, selon ses besoins, ses envies, ses sensibilités. Sur YouTube, les bols tibétains, les bruits d'eau par exemple, les sons isochroniques, ou sur CD, ou même sur la page Facebook de mon amie dessinatrice Sandrine Gaucher, Spiritual of Cui, qui m'a initié il y a maintenant plusieurs mois, pour mon plus grand bénéfice. Méditer, écouter de la musique douce, c'est du temps qu'on prend pour soi, pour se faire du bien. Alors si vous ne connaissez pas, laissez-vous donc tenter par cette aventure. En ce moment, nous écoutons The Rhythm of Qi du compositeur Blue Cliff ensemble.
Merci Elisabeth pour ce petit moment de zénitude.
Merci Luc.
Dernière pause musicale expliquée par
l'équipe des Boulons.
On doit expliquer le choix de cette chanson. Je crois que c'est une chanson qui passe en ce moment beaucoup sur les antennes, que Transat FM passe souvent aussi, et qui parle d'elle-même, je crois qu'il faut l'écouter, parce que ça nous ressemble aussi, être un homme debout. C'est ça, hein, Vanessa, je ne me trompe pas ?
Oui, c'est ça.
Voilà, merci beaucoup.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restaurez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout.
Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur? Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie à vendre.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais.
C'était l'émission des boulons. Nous vous donnons rendez-vous le 25 février pour une prochaine émission. Bonne soirée à vous. Bisous.